La Fontanelle. Fragment.
Donc suite donc à la dernière réunion, on s'était posé la question de l'anonymat et de la signature. Et du coup, en parlant pas très longtemps, on s'est rendu compte que ça soulevait plein de questions dans notre travail d'artiste de manière générale. Parce que ça pose la question du sujet, de l'assignation d'une œuvre, de la propriété, de la forme sujet comme élément capitaliste. Voilà. Et vu qu'il y a en ce moment un certain nombre de gens qui préfèrent ne pas signer ou signer avec des pseudos ou signer de manière collective, parce que c'est aussi la question du collectif, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de réponse directe, donc on a essayé de chercher quelques petites références, et puis on va enregistrer la discussion qui suit sur les points où nous en sommes chacun sur ces questions-là, et peut-être il y avait un point spécial sur ce que l'Europe vient de sortir sur les droits d'auteur.
Mais, en tout cas, ce qui mériterait d'être travaillé de façon un peu précise, c'est l'invention récente du droit d'auteur, donc au XVIIIe siècle, son évolution, qu'est-ce que ça a permis et qu'est-ce que ça a empêché. Il semblerait que beaucoup de choses qui sont devenues des œuvres signées était autrefois du domaine public et circulait beaucoup dans une très ancienne tradition orale où les choses changeaient, évoluaient en fonction des personnes qui les relayaient. Donc c'est intéressant parce que ça fait très peu de temps, en fait, ça fait 3 siècles, disons au maximum, qu'on est dans cette histoire de l'auteur, et il semblerait qu'on veuille s'en échapper aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va perdre et qu'est-ce qu'on va gagner dans cette affaire de ne plus pouvoir signer un texte ou, parce que c'est une revendication intéressante de dire on peut amender un texte, on peut le transformer, on peut se le réapproprier, etc. Mais en même temps, ça fait perdre aussi probablement beaucoup de choses sur la particularité de la manière dont un angle précis a été traité par une personne précise. Donc c'est un débat assez vaste, ma foi. Mais je rappelle quand même que ça fait très peu de temps en Europe et donc aux États-Unis, etc., mais que... en Occident, quoi, que l'auteur existe vraiment. Bien que j'ai lu aussi quelque part que des conflits de droits d'auteur ont eu lieu en 520 après Jésus-Christ, mais c'est une autre histoire. En tout cas, on va perdre des choses et on va en gagner d'autres. À mon avis, c'est ça le débat, quoi.
Aussi dans un contexte qui est celui de La Fontanelle, qui est un collectif, et ça pose aussi la question des singularités de chacun au sein du groupe, du jeu, au sein du collectif. Quelle place il a, en fait? Est-ce qu'il est interactif? Est-ce qu'il s'additionne? Est-ce que c'est dans ce contexte-là aussi qu'on pose cette question? C'est pas seulement signer l'œuvre en tant qu'artiste ou ne pas la signer. C'est qu'est-ce qu'on fait de nos singularités au sein de ce groupe Fontanelle ou d'un autre collectif?
Ce qui est intéressant dans le texte de Foucault, qu'est-ce qu'un auteur dans cette conférence, la lecture que j'en fais, c'est que il s'intéresse à la disparition de l'auteur pour ce qu'elle ouvre de sens, et comment finalement la fonction auteur a inversé les questions par rapport au sens d'un texte, c'est-à-dire que, j'ai l'impression que il dit que finalement le fait qu'il y ait un auteur qui est considéré du coup comme la source, ça empêche une prolifération du sens et différents modes d'existence du discours, comment il peut circuler, comment il peut se l'approprier, et ça pose plein de questions un peu néfastes du style qui parle, quelle est son authenticité, a-t-il une légitimité dans le discours, etc. Alors ça, c'est, il en parle vraiment pour la question du discours, on va dire de sciences sociales, intellectuelles, ou même en littérature. Mais vu que nous, notre créneau est pas exactement le même, je ne sais pas si vous pensez que ça altère ce raisonnement ou si on est sur quelque chose qui est un peu similaire, quoi.
Ben c'est vrai, de quelle manière, si tu signes, les autres peuvent s'emparer d'un sujet tu vois. C'est vrai que ça pose cette question. Après, on peut envisager que ce jeu, que cette singularité, il va au contraire renforcer le collectif, et inversement, comme ça a pu être le cas dans plein de mouvements d'avant-garde. Je pense au Dada, où chacun signait, tu vas voir qu'il va émerger un Tsara, ou chez les surréalistes, ou enfin dans plein de groupes, en fait, où tu c'était pas incompatible, en fait.
Ouais. Mais c'est vrai que nous, si on prend notre culture de musique classique, on est assigné à l'identité de qui joue, qui compose, et la perception des œuvres est totalement influencée par la question de la sacralité du compositeur, voire de l'interprète, voire ça veut dire que, enfin, il y a des émissions un peu pas terribles sur France Musique, là où ils font de la critique de disques en boucle, et en fait, souvent ils éliminent en premier des gens très connus et très glorifiés, quoi, enfin, en disant que ça va pas, nanana, et tout. Et ça se trouve, s'ils avaient le nom, ça changerait tout de la perception. Pour peut-être ce qui est. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a aussi la dimension, il y a les différents modes de signature, quoi. Il y a, parce qu'on parle soit de l'auteur comme le nom de quelqu'un, enfin le nom propre, mais il y a aussi les signatures pseudo, la signature collective. Et est-ce que, par rapport à ce que disait Foucault, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, est-ce que vous pensez qu'il y a des modes de signature qui ouvrent le sens, justement, par exemple, si on prend l'idée du comité invisible, c'est pas anodin comme signature, et il y a quand même, ça travaille le sens de ce qui est dit, de ce qui se voit pas, de ce qui se prépare, de ceux qui s'organisent, ils utilisent cette formulation là, et qui se voit pas, et comment finalement chacun peut participer au parti imaginaire, à cette organisation là, c'est aussi une ouverture du sens de cette signature, qui est la signature collective en l'occurrence, qui du coup crée un effacement du jeu subjectif, mais à la fois est aussi réutilisable par tout le monde. Enfin, tout le monde peut faire partie de ce parti imaginaire. Enfin, il y a quelque chose comme ça, je sais pas.
C'est sûr qu'en disant ceux qui s'organisent, du coup, tout le monde peut participer, alors qu'en disant on s'organise, c'est plus. C'est différent. Mais là, après, ceux qui s'organisent, c'est formulé. Enfin, c'est la formule aussi qui est ouverte. Enfin, du coup, comité invisible, ça fait moins. Enfin, quoi que si, ça le fait aussi un peu, mais.
Non, mais si je me fais un peu l'avocat du diable, on pourrait dire que il y a des collectifs qui s'organisent et qui en même temps s'organisent beaucoup autour de l'individu et de son individualité, justement au sein d'un groupe, et même je dirais que la culture spectaculaire d'aujourd'hui, elle est très liée à ça, c'est-à-dire tous les groupes Facebook des gens, ou des, enfin, je pense Facebook, mais non, c'est YouTube, où c'est les gens qui se mettent en scène, c'est YouTubeurs, et après ils se rencontrent entre YouTubeurs, et ils se mettent en scène dans cette. Et en même temps, c'est vrai que c'est les gens qui n'auraient pas forcément été reconnus en tant qu'artistes, et par les moyens que la technologie présente aujourd'hui. Ça fait qu'on a une espèce d'observation permanente de toute la société, et n'importe qui peut devenir une star. Et quelque part, c'est quand même des gens qui s'organisent. Après, c'est vrai qu'ils s'organisent d'une manière extrêmement et proche de la communication capitaliste,
de la création d'une marque.
De la, oui, voilà. Du, voilà.
C'est ce qu'Andy Warhol avait prédit. Hein, quand il disait chacun aura son heure de sa minute de gloire à la télévision, etc. Et en même temps, Andy Warhol, c'est une marque qui fait absolument n'importe quoi et on s'extasie devant, quoi.
Je veux dire. Qui a toujours fait ce qu'il dénonçait, en fait, ce qui est le cas de pas mal de monde, en fait. Il y a Gilanus là, qui a écrit L'épreuve du collectif qui parle de démocrétinerie libérale.
Non, c'est... Moi, je crois que c'est ce qui, enfin, c'est l'histoire de la marque. Est-ce que tu parlais, Juan Camilo, ça pose beaucoup la, et c'est aussi la question du sujet qui signe et de tous les parallèles forme sujet et développement du capitalisme, etc. Individu, clos. Et c'est finalement, est-ce que le geste qu'on pose dans la fontanelle ou dans une production artistique, est-ce que il a vocation à être fini et du coup à être, enfin, est-ce que l'individu qui, est-ce que il y a deux choses, est-ce que l'individu qui le produit, c'est un individu fini qui fait une production, ou est-ce que ce geste là lui-même il est fini, ou il est à vocation à être continué, à être relayé et à être pris dans un ensemble de situations, il relaye des situations comme disait le comité invisible. Et du coup, est-ce que ça pose aussi la question de la clôture du sens ou pas, ou est-ce, enfin, je sais pas, il y a cette question là dans la production de ce qu'on fait, est-ce que le sens il est clos, et là-dedans, est-ce que la signature elle permet d'assigner une personne close à un sens clos, etc., ou au contraire de mettre en relation avec d'autres signatures. Ou, enfin, je sais pas, ça c'est la question, est-ce que c'est ce que ce qu'on propose est complet, enfin, est fini, quoi.
Mais est-ce que c'est quelque chose qui est indispensable pour signer? Est-ce que par exemple l'expérimentation c'est pas quelque chose en soi, même si c'est jamais fini et si ça se cherche et si ça, est-ce que c'est pas quelque chose en soi, même
oui,
si c'est
bah
pas
si.
Fini en fait,
mais est-ce que justement
ça n'est jamais fini, est-ce que ça tu peux pas le revendiquer?
Oui, mais justement, est-ce que si tu signes avec par exemple un nom propre qui est une forme d'état civil et un représentaire la représentation d'un individu clos sur lui-même, est-ce que justement ça va pas enlever ce caractère non fini de l'œuvre d'art?
Tu penses que si tu signes, tu es clos sur toi-même?
Bah,
c'est des questions, hein,
je sais pas. Et est-ce que, en tout cas, est-ce que cette œuvre elle est non finie par rapport à ce que toi tu vas pouvoir continuer avec, ou est-ce qu'elle est non finie parce qu'elle va résonner avec d'autres choses de gens que tu ne connais peut-être pas et qui vont interagir avec ça, ou avec une production dans 3 ou 4 ans, ou
dans 50 ans,
ou dans 50 ans, voilà.
S'en emparer.
Est-ce qu'il y a, en fait, je pense qu'il y a deux aspects du droit d'auteur ou de la notion des droits d'auteur. C'est, il y a le droit moral, il y a le droit à la rémunération. Parce que le droit moral, ça touche plus cet aspect-là, c'est-à-dire quel est le rapport entre une personne et sa création, ou ce qu'il a inventé. Et ce qu'on conçoit, peut-être. Moi, personnellement, je dirais qu'une personne est plus un transmetteur des plein des choses qui sont là, et que cette chose-là, elle apparaît par une subjectivité. Mais effectivement, est-ce qu'il a... Moi, je me méfie toujours des gens qui disent « j'ai inventé ça, je suis le premier à avoir fait ça » ou parce qu'effectivement, tu peux pas le savoir, personne ne peut le savoir si on est le premier. Avoir fait quoi que ce soit, avoir inventé et à pouvoir mettre un brevet comme ça, un tampon. Et donc, du coup, de ce point de vue-là, je trouve que la notion d'auteur n'est pas toujours légitime. Mais après, il y a l'aspect moral d'une création, dans le sens où tu as créé quelque chose et tu ne veux pas forcément que cette œuvre serve à des choses avec lesquelles tu n'es pas d'accord. Donc si par exemple un mouvement politique avec lequel tu sens qu'il y a une complète contradiction avec l'œuvre que tu as fait, et qu'eux ils les récupèrent et pour promouvoir leur parti, est-ce que toi en tant qu'auteur tu peux t'y opposer? Normalement, c'est dans les droits français, tu peux vendre, enfin, et même dans beaucoup de droits, tu peux vendre ou on peut vendre ces droits à la rémunération, mais le droit moral est comment dire, inaliénable, quoi. Enfin, il est unique. Donc ça, c'est toujours la seule chose qu'on peut garder, c'est le droit d'interdire que quelqu'un utilise son œuvre pour des fins qu'on ne veut pas qu'elle soit utilisée.
Je ne sais pas si tu as envie de parler du logiciel libre, parce que c'est très important, hein, dans cette histoire. Non, c'est complètement dans le sujet. C'est complètement dans le sujet, puisque le logiciel libre, c'est vraiment aujourd'hui la chose dont tout le monde se sert, qui fait la preuve qu'elle est plus efficace que quand elle appartient à une marque.
Là, c'est le développement participatif, oui. Plusieurs exemples là-dessus, c'est entre autres pour les prothèses humaines utilisées en chirurgie. Il y a une entreprise qui a réalisé de meilleurs progrès, entre guillemets, en capitalisant les différents retours de personnes qui étaient handicapées et comparé à une entreprise privée, quoi, voilà. C'est-à-dire que le fait d'avoir des retours directs de personnes qui utilisent ça, finalement, pour les chercheurs qui utilisent l'open source, c'est plus efficace. C'est-à-dire que un pouce qui se referme sur un stylo ou quelque chose comme ça, c'est... Ça peut être fait avec l'open source, alors que, disons que pour une entreprise privée, ça va être quelque chose de calculé dans 5 ans. Le produit existe déjà, hein, mais voilà. Enfin, je ne sais pas si je suis très clair.
Donc c'est plus efficace, en fait.
Ouais, c'est plus efficace, ouais. C'est plus efficace, et on pense que ce sera plus efficace à long terme, cette participation-là, ce mode de travail-là.
Par rapport à ce que tu disais de la différence entre le droit moral et l'autre,
c'était le droit à la rémunération.
Oui, voilà. On a eu des débats entre compteurs, puisque la matière du compte traditionnel, elle est anonyme et orale et ancienne, et qu'aujourd'hui, puisqu'on est compteur et qu'on s'inscrit dans le cadre d'une profession et qu'on prétend à la rémunération, il y a des débats. Et on avait fait intervenir une responsable des droits d'auteur qui disait une chose qui nous a assez bien recalé. Elle disait on est propriétaire d'une forme, mais pas d'une idée. Ça veut dire que moi, si je raconte, je vais prendre par exemple le petit chaperon rouge, qui est un motif de conte traditionnel. Si je raconte texto la version de Charles Perrault, éventuellement je lui suis redevable puisque j'emprunte sa forme, ses mots. Par contre, si j'utilise l'idée, c'est-à-dire la structure narrative de ce récit, et que j'en fais ma propre version, alors je suis libre. Mais en créant cette version qui est la mienne, je peux prétendre à des droits d'auteur. Si quelqu'un veut raconter le petit chaperon rouge avec exactement les mêmes mots que j'ai choisis, alors il y a une notion de propriété. Par contre, le schéma narratif, la structure, elle est libre et il s'inscrit dans cette chaîne de transmission. Et moi, du coup, j'ai fait le choix en tant que conteuse, dès lors que je raconte des contes traditionnels autour desquels j'improvise la forme quasiment à chaque fois, eh bien, je refuse de les déposer à la SACD, et je n'ai déposé à la SACD que les spectacles dont je considère être l'auteur en termes de forme, quand bien même je m'inspire pour ces spectacles de forme traditionnelle, mais je leur donne une forme fixe.
C'est intéressant ces différents niveaux, parce que dans ce qu'on a regardé tout à l'heure et j'ai l'impression dans ce qui va souvent être produit sur la Fontanelle, il y aura du détournement, il y aura de la citation, il va y avoir des choses comme ça, et du coup j'ai l'impression que je sais pas à quel du coup l'idée de propriété nous enferme dans un espèce de cercle vicieux qui finalement n'en finit pas de la propriété, de la reprise, de la propriété, de la reprise, de la propriété, de la reprise. Et vu que j'ai l'impression que dans ce qu'on a déjà produit et dans ce qui va être produit, il y a déjà, nous, de la réutilisation de choses qui pourraient être soumises, j'ai l'impression, au droit d'auteur. et ben, du coup, que nos travaux soient repris après ou que, en tout cas, ça soit des possibles. Moi, c'est quelque chose qui me... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression, en tout cas, moi, au stade où j'en suis, c'est que, on va dire, en dehors des conditions matérielles que ça implique et des rémunérations nécessaires à la vie, aux conditions d'existence de chacun, l'idée de propriété de ce que je fais en tant que... ou de ce que j'essaye de faire, j'ai l'impression que moi, je suis en train de l'abandonner petit à petit totalement, puisque c'est une forme capitaliste et que, enfin, disons en soi, ce serait bien de l'abandonner totalement, quoi.
Enfin, ça existait avant le capitalisme. Hein. Je lis deux lignes, le Genèse du droit moral. Le plus ancien différend connu sur la propriété d'une copie d'un texte opposa vers 560 Saint Colomban d'Iona et Saint Finian. Colomban aurait secrètement copié un psautier appartenant à Finian. Finian, en découvrant la copie, aurait alors contesté à Colomban le droit de l'emporter sur base de l'argument selon lequel une copie faite sans permission devait appartenir au maître de l'œuvre originale, vu que le livre transcrit est le fils du livre original. La question fut tranchée par le haut roi d'Irlande, Dermait Mac Sermail, en vertu du principe « à chaque vache son veau » aux grandes dames de Colomban. L'anecdote ne dit pas si Finian était auteur ou non du livre copié. Donc c'est une propriété, mais c'est pas forcément lui l'auteur.
C'est une revendication aussi quand tu signes. C'est pas que des histoires juridiques, en fait. Quand tu es un artiste et que tu montes au créneau sur certaines questions qui sont pas évidentes, qui sont contestées, sur lesquelles quand même il faut que tu... il s'agit de revendications, en fait, et que tu assumes pleinement. Et souvent, c'est très important de les signer, en fait. Moi, dans mon travail, c'est très important d'être dans des collectifs, parce que je le suis depuis toujours, et c'est assez rare, finalement, que je signe de mon nom. Mais malgré tout, je veux être en capacité de revendiquer ce que je dénonce ou ce que je... Tu vois, c'est très important pour moi, en fait. Ça n'a rien à voir avec... quelque chose de l'ordre juridique qui protégerait mon idée comme si c'était quelque chose de... Tu vois, il ne s'agit pas du tout de ça, en fait.
Ni de monnayer quoi que ce
soit.
Oui,
ni de monnayer, oui. Vraiment, loin de moi, voilà. Ni de protéger, c'est quelque chose qui se situe au niveau de la revendication.
Ouais.
Et d'assumer aussi pleinement, voilà, ce que tu défends, en fait. Tu vois.
Et nos amis situationnistes passaient leur temps à faire ce que tu disais tout à l'heure. Hein,
oui.
À détourner, copier, coller, etc.
D'ailleurs, je crois que quand il y a détournement, je crois qu'il y a les... ça va vérifier, hein. Mais je crois que le droit de propriété, ça ne s'applique plus parce qu'il y a c'est détourné, justement.
Mais parce que effectivement, tout ça est de la matière, en fait. Vraiment. Alors, à nouveau, moi, je revendique ça, tu vois, de pouvoir tout prendre en tant que matière et le réinventer, le repenser et de l'approprier et en faire autre chose, en fait.
Mais dans ce monde-là, ça donne. Les situationnistes, c'est qui? C'est qui, les situationnistes, hein, en dehors de Guy Debord et Raoul Van Hegem, c'est-à-dire deux grands noms avec des signatures très fortes.
Je sais pas, il y a eu 70 membres, non, dans le
livre. Ouais, tu peux me les citer.
Bah non.
Il y a Maurice Lemaître.
Ouais.
Et Isidore Issou, mais c'est plutôt les
tristes. Non, non, lui, c'est le père. Ouais. C'est le lettriste. Ouais. Ouais. Non, mais je veux dire qu'on est vraiment au cœur du paradoxe, quoi.
Oui. Après, dans l'anonymat, il y a aussi une question de, que moi je trouve intéressante, qui est l'idée de protection et de protection démocratique. Enfin,
oui.
Qui est quelque chose de démocratique dans l'anonymat. Ça veut dire que finalement, c'est l'idée du lanceur d'alerte, de tout ça. C'est de la prise de parole totalement libre avec une protection de ça. Et qui est, qui est un peu le je pense, qui complète un peu ce que tu disais.
Et qui est l'anonymat du résistant.
Voilà.
Voilà.
Et qui est l'autre face, en fait, de ce que tu disais, soit de revendiquer, soit justement d'anonymiser pour se protéger, ou justement que sa revendication ne soit pas assignée à ce qu'on est, ou à une autre chose, ou à...
Mais effectivement, je pense que ce n'est pas antinomique, en fait.
Oui, je pense.
C'est des choses complémentaires, c'est pour ça qu'il faut, il me semble, se laisser la liberté de faire de différentes manières, chacun comme on veut, mais même nous, de faire de façon différente à certains moments, en fait.
Après, les organismes qui perçoivent les droits d'auteur et qui réagissent ne nous donnent pas cette liberté. Parce que moi, ce que je décris tout à l'heure, par exemple, je ne suis pas du tout dans les clous de la SACD qui exige que tout soit déposé. Et là, après, c'est compliqué parce que moi, ce n'est pas des questions de rémunération. Comme tu le disais tout à l'heure, la question aussi de, éventuellement, l'usage non consenti une récupération à des fins idéologiques complètement contraires à ce que tu avais imaginé, c'est quand même difficile d'être dans cette situation potentiellement et de ne pas avoir de recours. Mais les organismes qui régissent le droit d'auteur le pensent uniquement en termes marchands et d'argent.
Ah oui, d'équivalence des valeurs.
Gilanus, là, dans son bouquin, dit que comme le penser est un acte solitaire, est-ce qu'on est autosuffisant et est-ce que dans cette autosuffisance éventuelle, ce serait finalement le jeu serait quelque chose de bourgeois ? C'est la question qu'il pense, parce que la foule, c'est pas jeu. Donc,
oui, le fait qu'il y ait dans l'acte de création qui reste une imperfection, qui reste une incomplétude, qui reste ça c'est sûr que c'est quelque chose auquel je pense on est tous très sensibles. Agamben dans un livre là il cite Dante et qui dit l'artiste qui a l'usage de l'art a la main qui tremble, et je trouve que c'est assez bien. Et du coup, d'avoir soit une non-signature, soit une anti-signature, soit une signature qui montre ce process de tremblement, je pense que c'est aussi quelque chose d'assez intéressant, quoi.
Ou des signatures, d'ailleurs.
Ou des signatures.
Certains auteurs.
Ouais. Ou une hétéronymie. Ouais.
Enfin, maintenant, quand on voit une voiture qui s'appelle Picasso, on comprend bien à quoi ça aboutit. C'est l'histoire de signature.
Dans le pire des cas, Nicolas.
Et dans le meilleur.
Ouais. Je sais pas, je pense qu'on peut faire des allers-retours, en fait.
Mmh. Oui.
Du jeu au collectif et... d'une manière très interactive, en fait, je pense qu'on...
Mais du coup, je pense que même cette histoire de la prolifération du sens, pour boucler un peu le truc, le fait d'enlever l'auteur et qui ouvre une prolifération du sens, ça questionne même dans les pseudos qu'on peut utiliser ou les patronymes ou la mise en relation des différents pseudos, par exemple. On peut s'amuser à beaucoup de niveaux de lecture avec ça. Et parce que ça peut justement créer des liens plus ou moins directs avec ou même avec des signatures d'autres gens du groupe, par exemple, sur d'autres projets pour relier les choses, etc. Ça peut être aussi intéressant, quoi.
Oui.
Enfin, voilà.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi un truc de l'ordre de l'art autonome, en fait, dans cet anonymat ? Parce que, est-ce qu'on n'oublie pas, en se déclarant anonyme, en se déclarant pas artiste et en ne signant rien, qu'on contribue à une sorte de sphère d'art et de sens prolifique, mais en même temps, est-ce qu'on n'empêche pas l'art de se construire sur des bases et sur une base qui est du social, qui est qu'il y a un artiste et il y a une communication entre l'artiste et son public?
Ah, tu verrais dans ce sens-là.
Bah oui, parce que du coup, ça veut dire qu'on considère que l'art est complètement autonome. C'est-à-dire qu'il suffit d'écouter une musique.
Bah, au contraire.
Pour avoir un.
Qu'il n'y a pas de. Enfin. Au contraire, moi, je me demande si l'anonymat et la disparition de l'artiste, ça dilue pas, justement, dans le social, la question de ce qui est produit, tu vois.
Ça veut dire que tu considères que l'art est. Et immédiat, qu'il n'y a pas besoin de... d'un passeur. Puis ça pose aussi une vraie question épistémologique sur l'esthétique, parce que l'esthétique, mine de rien, avoir des compositeurs, enfin je parle en musique, hein, un peu en ce que je connais, mais d'avoir des compositeurs qui ont signé leurs œuvres, ça permet aussi d'analyser une sorte de progression et de faire des liens entre les gens, entre les différents compositeurs, et ça nous ramène au paradoxe dont parlait Nicolas tout à l'heure, c'est que les mouvements sont bien fédérés par des gens, et on a mis des noms sur des mouvements parce qu'il y avait des gens récurrents et qui ont créé quelque chose. Donc est-ce que l'anonymat amène pas vers une sorte de prolifération du sens dans laquelle on se perd, en fait?
Inversement, tu peux décider que tout est art et que chacun a sa place là-dedans.
C'est ça, mais est-ce que ça se passe vraiment comme ça?
Sans qu'il y ait un artiste d'excellence qui est un nom, tu peux décider que tout est art et que chacun...
Non, mais il y a peut-être quelque chose d'historique qui s'est produit aussi, tu vois. On est peut-être arrivé à un moment où, par exemple, la signature, quand c'est Boltanski ou... peut-être Beckett, enfin je sais pas, ou Marcel Duchamp, ça devient l'impossibilité de continuer à signer. Tu vois, la signature du gars qui s'appelle Boltanski et qui t'assène ces amas de chemises et de pantalons de Suisse mort, là. Non mais je dis ça parce que à un moment donné, je sais plus quel musée a téléphoné à Boltanski pour lui dire on a un problème, il y a du linge que vous nous avez laissé là qui est très très abîmé, il faudrait qu'on le remplace, tu vois. Alors qu'est-ce qu'on fait, puisque vous êtes l'artiste, le gars qui a signé, tu vois, donc qu'est-ce qu'on fait de votre œuvre? Mais le linge est en train de pourrir ou je sais pas quoi. Boltanski leur a dit, mais des Suisses, il y en a qui meurent tous les jours, démerdez-vous. C'est un concept que je vous ai vendu, c'est pas la réalité du tissu, tu vois. Donc une fois que Boltanski a fait ça, par exemple, est-ce qu'on peut continuer après? Est-ce que lorsque Duchamp a fini par montrer que c'était le lieu où on expose un pissoir qui fait que le pissoir est regardé comme une œuvre, est-ce qu'on peut continuer à faire après Duchamp des choses signées, alors que là, la signature, elle a servi à atomiser la signature. La signature, elle a servi à montrer que la signature servait à rien, quoi. En gros.
Bah si, justement, si. Elle sert justement à faire que l'œuvre est œuvre. Je dirais que c'est même le paroxysme de la signature, quoi.
Je mets la signature sur un mur blanc et... Oui, que c'est le paroxysme de la signature, c'est vrai. Je le verrais plutôt comme ça.
Ben non, c'est une signature. Une signature, c'est pas une œuvre. Lorsque Picasso paye son repas au restaurant en signant... tu vois...
Les serviettes.
C'est pas une œuvre. Ce qu'il vend, c'est sa signature. Donc il montre bien que la signature n'est rien d'autre qu'une puissance symbolique.
Oui, mais c'est ce qui fait que moi ça me questionne beaucoup sur justement ce rapport sensible social à l'art, quoi. C'est-à-dire que est-ce qu'on cherche que de l'art ou est-ce qu'on cherche un rapport avec un artiste? Est-ce que c'est pas l'imaginaire de Picasso, mine de rien, qui s'incarne dans la signature? Ce qui pose une vraie question sur la nature des choses. Mais bon, de toute façon, il ne s'agit jamais que de ça, entre ceux qui analysent formellement les œuvres et ceux qui analysent les pratiques sociales qui en découlent, quoi. Mmh. Et à mon avis, il y a toujours des deux. Et je me demande si l'anonymat ne renvoie pas, en fait, l'art à une autonomisation totale, quoi.
Je pense qu'il y a plein de manières différentes d'approcher l'art, quoi. Enfin, même en musique, on le voit très souvent. Et quand on était à l'école, par exemple, il y avait des gens qui étaient très proches des anecdotes, des vies des gens, quoi. Non, l'artiste rock, de savoir quand est-ce que le groupe a changé, guitariste, et pourquoi le batteur est arrivé cette année-là. Enfin, il y a le côté anecdotique de la musique qui attire quand même une grande partie des gens. Et puis dans l'art aussi, il y a les biographies, les histoires, les salons. Après, je pense que l'un n'empêche pas l'autre. En fait, c'est la question de l'anonymat. Au final, ceux qui veulent savoir qui est derrière quelque chose, ils finissent par le trouver, quoi. Et après, effectivement, c'est plutôt un choix de débrouiller les pistes, pas forcément rompre avec cette idée de médiation entre l'artiste et le public. Parce que, bon, par exemple, dans la techno, tu as tous des déguisements ou les DJ machin qui étaient toujours masqués dans les raves.
Ouais,
bah, oui, voilà, ou même des gens très connus. Et au final, la marchandisation est là, quoi. Et le fétichisme et la marchandise est toujours là.
Mais ça ne te met pas du tout à l'abri du système, en fait. Même ça le... Ça le...
Oui, ça peut l'accentuer, ouais. Bah, comme, ouais. Comme ça... Enfin, quelque part, des fois, c'est les institutions mêmes qui veulent ça, un mouvement fort, un nom fort des mouvements. Mais je pense que pour nous, enfin, en tout cas, dans notre cas, c'est plutôt pour aller questionner justement comment on travaille en collectif, comment on assume aussi collectivement... Et des créations artistiques ou créations sonores, quoi. Non, je sais pas.
Ok.
Tu conclues, quelqu'un ?
On conclut ? Non, je sais pas, tu veux conclure ?
On lit un dernier petit texte. Inspirant pour
vous
clôturer.
Je sais pas.
Non, moi, je peux ajouter une chose aussi pendant que tu cherches ton texte. C'est une réflexion infinie qui nécessiterait beaucoup de lectures et de travaux et de discussions, etc. Sur la manière dont le collectif, en fait, est incarné à un moment donné de l'histoire par son porte-voix. Tout simplement, quoi. Je veux dire, mais c'est du collectif. Sur ton continent, Pablo Neruda a bien écrit le Canto General, qui représente complètement ça, quoi. C'est la voix du peuple. Et c'est une personne, pourtant, qui la porte. Et ce rôle-là, c'est un rôle, à mon avis, bien antérieur au capitalisme. Hein, tu vois, je veux dire, parce que là, on confond marque et incarnation. L'incarnation, ça existe. Je veux dire, Robin des Bois, c'est pas une invention capitaliste, que je sache, à moins que je me trompe. Mais il y a des incarnations comme ça du peuple. Et puis tout d'un coup, un poète comme Rudebeuf ou François Villon ou même Rimbaud, puisque on peut terminer en parlant de Rimbaud qui dit « je est un autre », sont les scribes d'une parole collective, mais que cette parole est collective, elle est essentiellement collective. Voilà, il y a des tas de choses à dire là-dessus, et entre autres, il y a une chose qui est Meyerhold, metteur en scène russe, peu après la Révolution, là, qui arrive à Paris par hasard, parce qu'il va en Suisse ou je ne sais quoi, un 14 juillet, et qui dit « J'ai compris comment les chansons révolutionnaires s'inventaient, parce que j'entends quelqu'un qui chante un truc à la fenêtre, je passe dans la rue, et puis trois heures après, il y a 50 personnes qui chantent cette chanson, et puis le soir, c'est devenu une chanson populaire qui existe. » Et elle est née comme ça, au fil d'une voix à l'autre, d'une oreille à l'autre, etc. Et je pense qu'il y a une vraie construction comme ça, qui se passe, qu'on finit par oublier, quoi.
Souvent, d'ailleurs, c'est pas des individus, mais des groupes d'individus au sein du collectif. Et c'est pas une parole qui porte, mais ça va être quelque chose de l'ordre de l'énergie, de l'enthousiasme, qui va permettre au collectif d'exister, en fait, sur quelque chose qui est pas trop mollasson, qui est pas trop... Enfin... Pour l'expérience que j'ai de collectif artistique, souvent c'est comme ça que ça se passe. Il ne s'agit pas d'individus, mais de groupes parfois plus mobilisés qui vont permettre des choses.
Arrêter. Ouais, non.
Je croyais que tu allais conclure.
Non, je sais pas. Par quoi. J'ai cherché un truc pour conclure, mais je sais pas trop vu que la position qu'on a, enfin les discours se passent entre tout ce qu'on a là. Ce serait bête de revenir à une affirmation péremptoire ou catégorique avec un auteur particulier.